Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
Cela pourrait être une histoire banale, tout simplement. Mais derrière les apparences, il y a parfois des histoires personnelles ou collectives où passé et présent s'enchevêtrent et se repoussent sans parvenir à se détacher. Des histoires de gens frustrés, pervers, manipulateurs, en déséquilibre, affamés de reconnaissance, de pouvoir et de femmes. Bref, des histoires de polar. Cela peut commencer par un parfum obsédant et se terminer par un parfum délétère. Et lorsque cela se passe dans une ville française, aux portes de l'océan, une ville qu'il n'aime pas la mer et lui tourne le dos, qui feint d'ignorer le port et sa ligne d'horizon, une ville à la sérénité apparente, cela sent mauvais. Tels sont les ingrédients de Fragrance, titre du polar quasi-olfactif d'Henri Migaud, paru chez Z4 Éditions, véritable diamant noir, finement ciselé, dont l'auteur est pris en fragrance délit de suspense et mène le lecteur par le bout du nez. Bonjour Henri Migaud.
Bonjour.
Très heureux de vous accueillir à Parole d'auteur. Je salue nos fidèles auditeurs en leur rappelant qu'ils peuvent réagir à cette émission sur notre site et la retrouver en podcast sur toutes les grandes plateformes numériques. Alors Henri Migaud, première question, avez-vous écrit ce polar au pif?
D'abord, j'étais pas du tout parti pour écrire un polar. J'avais écrit un premier livre sur les guerres, et là c'est un ami, en discutant à propos de ce premier livre, qui m'avait dit « Mais pourquoi t'écris pas un polar ?» Pourquoi pas? Et lorsqu'une idée me trotte dans la tête, c'est souvent vers 2h, 2h15 du matin, que je me suis dit « Ah mais alors un polar, oui, et autour de l'obsession pour un parfum ». Alors bien sûr, on connaissait le livre de Susskind, Le Parfum, mais la grenouille, lui, est créateur de parfums à partir de ses victimes. Et moi, je voulais un consommateur, quelqu'un d'obsédé par un type de parfum, une marque de parfum, une fragrance particulière. Et donc, ça a été le point de départ. Et donc, je me suis dit, ben voilà, je vais faire un serial killer, serial pervers, avec comme dénominateur commun un parfum. Toute femme portant ce parfum pouvant être une victime potentielle de ce pervers.
Alors nous allons voir cela en détail, mais auparavant, si vous le voulez bien, je voudrais un petit peu que vous présentiez à nos auditeurs. Alors j'ai compris que vous aviez été journaliste pendant 25 ans
à peu 25 près, ans à peu près, oui.
J'ai cru comprendre que vous aviez de grandes connaissances sur le quai d'Orsay, sur le quai des Orfèvres et même l'Élysée.
Oui, j'ai un peu fréquenté tous ces lieux-là. Ben déjà, à l'école de journalisme, j'ai eu la chance, on avait un stage à faire et dans le milieu que l'on choisissait, qu'on voulait. Et moi, j'avais choisi le quai des Orfèvres. Et en tant que stagiaire, là, c'était passionnant, et pas en tant que journaliste, parce que les écrits qu'on pouvait faire n'étaient pas destinés à être publiés, mais uniquement pour l'école. On pouvait suivre les enquêtes du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire du coup de fil qui prévient, vous montez dans la voiture avec les enquêteurs, vous attendez sur le palier le serrurier, vous découvrez en même temps que les enquêteurs les scènes de crime, et ensuite vous suivez tout le fil jusqu'aux interrogatoires, aux arrestations interrogatoires, et voir les aveux. Et donc ça m'avait donné une première idée. Et lorsque j'ai trouvé un travail dans une radio, la personne qui était en charge du quai des Orfèvres partait au service militaire. À l'époque, il y avait encore le service militaire, et on m'a demandé de le remplacer. Donc pendant un an, j'étais accrédité au quai des Orfèvres. Donc là encore, j'ai pu suivre les enquêtes. C'était à l'époque des... Il y avait Messrine, il y avait des gens comme ça, il y avait les grands enlèvements aussi, le baron Pain, et donc c'était des enquêtes au long cours, des grandes enquêtes, et vous passiez vos journées, vos nuits au Quai des Orfèvres à discuter avec les flics, et ça vous donne quand même une certaine expérience de comment se trame une enquête, comment travaillent les policiers, voilà. Et après, au gré... au gré de mes affectations, oui, j'étais affecté quelque temps au Quai d'Orsay, donc là, ça vous apprend un peu les secrets de la diplomatie. Après, attaché à l'Élysée, accrédité à l'Élysée pendant plusieurs mois. Donc là aussi, vous avez un peu l'envers du décor de la politique, et c'est pas inintéressant du tout, quoi.
Et donc, vous avez tous les matériaux pour faire de bons polars.
Oui, j'avais de la matière, oui, effectivement. Après, le reste, c'est affaire d'imagination.
Alors, à l'heure actuelle, donc, vous avez quitté les rédactions, je crois, depuis 2001.
Oui.
Voilà. Et donc, vous venez du Minervois.
Tout à fait. Voilà. Donc, j'ai d'abord atterri dans un village qui s'appelle Olonzac, au plein cœur du Minervois, donc au milieu des vignobles, pour y monter une maison d'hôte, avec des chambres qui étaient dédiées à des écrivains voyageurs. Donc Blaise Cendrars, toute une série, Nicolas Bouvier. Et avec dans l'idée aussi de monter des ateliers d'écriture, d'organiser des expos, des concerts. Donc j'ai fait ça pendant 13 ans. Et ensuite j'ai revendu la maison et je suis dans un village tout à côté, à Oupia, qui est un tout petit village, pareil, au milieu des vignobles. Et là, je continue à organiser des expos, des concerts, on s'occupe de la bibliothèque, on est à la mairie aussi, on est impliqué dans la vie du village, quoi.
Alors, je crois savoir par ailleurs que vous êtes impliqué dans un festival mondialement connu qui a lieu tous les ans à Cosne-Minervois. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ?
Alors, effectivement, au-delà, même, je crois que ça va au-delà du mondialement connu. Je crois que on en parle dans l'atmosphère. Et ouais. Alors, il s'agit d'un festival en hommage à Pierre Dac, le festival Lofoc, qui a été créé par un ancien pharmacien de Toulouse qui a créé ce festival, qui est le président officiel de l'association qui gère ça. Et donc, pendant une année, on réfléchit plutôt d'une manière détendue à ce qu'on pourra proposer aux spectateurs, en général l'avant-dernier ou le dernier week-end d'août. Et avec comme leitmotiv, reste fidèle à l'esprit de Pierre Dac, c'est-à-dire être loufoque dans tous les sens du terme. Et ça se décline à l'infini. Là, ils en sont à la 5e ou 6e édition. Et nous, on y participe depuis 3 ou 4 ans, je crois. Et les travaux préparatoires sont très sérieusement rigolards, quoi.
On n'en doute pas. Oui. Donc, pour nos auditeurs, on rappelle que c'est l'avant-dernier week-end du mois d'août.
À Cosne-Minervois. Dans les jardins de l'abbaye, une abbaye qui est très, très célèbre, qui mérite d'être visitée. Et ça se passe et dans les jardins et dans le caveau de l'abbaye. À Cosne-Minervois, donc dans le Minervois.
Et je me permets de recommander, de fortement recommander à nos auditeurs ce festival auquel j'ai personnellement assisté depuis le début.
Vous êtes un fidèle.
Henri Migaud, vous avez écrit, je crois, 2 livres jusqu'à présent. Alors le premier, c'est un livre qui s'appelle « De guerre lasse », qui a été publié en 2017. Quel est le sujet de ce livre ?
Alors le sujet de ce livre, c'est la guerre. Je suis parti d'une histoire personnelle, en tout cas familiale, qui était un grand-oncle qui, le 11 novembre 1918, donc le jour de l'armistice, s'est suicidé. Et donc c'est une histoire qui traversait un peu l'histoire familiale. Et à l'époque, on n'appelait pas ça le syndrome post-traumatique, mais c'était tout à fait ça. C'était quelqu'un qui avait été complètement traumatisé par les horreurs qu'il avait vues et vécues. Et je l'ai croisé avec... au départ, c'était... Je voulais raconter une guerre vue par un homme, une guerre vue par une femme et une guerre vue par un enfant. La vue par l'homme, j'ai réussi sans aucun problème. Vue par la femme, c'est à la fois les témoignages de parents ou d'amis qui m'avaient raconté cet épisode qui était vraiment un sale épisode après la fin de la Deuxième Guerre, qui a été toute la période de l'épuration, où beaucoup de gens se sont donné bonne conscience en jouant les justiciers, alors que durant la guerre, ils n'avaient pas été forcément du côté de la résistance, quoi. Et donc cette histoire-là m'avait aussi frappé, j'avais eu des témoignages, je m'étais renseigné aussi, et je voulais... l'enfant, là j'avais moi du matériel entre guillemets à disposition, c'est-à-dire que j'avais couvert un moment dans les années noires de l'Algérie, tous les massacres en Algérie, donc on avait été en immersion avec un grand reporter, Et j'avais recueilli des témoignages absolument terrifiants, notamment d'un bébé qui avait été crucifié sur la porte de la maison de ses parents. Et j'avais recueilli les témoignages et des voisins et de la maman et tout ça. Et là, bah, écoutez, autant quand il s'est agi de raconter cette histoire dans mon reportage, je n'ai pas eu de problème. Autant au moment où il a été, j'étais en charge de le fictionner, de le raconter pour un livre, j'ai complètement bloqué. Complètement bloqué, c'est-à-dire que je l'avais fait une fois pour, dans le cadre de mon métier, mais pour le mettre dans un livre, j'ai pas réussi, donc je me suis cantonné à un homme en 14 et une femme en 45.
D'accord. Alors, dans un tout autre genre, vous avez enchaîné sur, en 2021, donc sur Fragrance. Mm-hmm. Alors, on va essayer de présenter ce roman aux auditeurs. En ayant la précaution d'éviter de trop dévoiler les choses. Alors d'abord, Fragrance, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce titre et peut-être ce double sens, finalement ?
Oui, alors vous avez employé Fragrance Délit, et effectivement, je pense inconsciemment pensé, mais je ne l'avais pas formulé, alors que là, vous l'avez formulé, Philippe. Et Fragrance, parce que je voulais m'attacher, quand j'ai eu cette idée de polar, c'était vraiment m'attacher à ces notes de parfum très particulières qui vous restent en mémoire lorsque vous aimez un parfum. Et comme le sujet du livre était l'obsession pour un parfum, j'ai trouvé que Fragrance résonnait bien en titre de ce bouquin.
D'accord. Alors, les auditeurs ne peuvent pas la voir, mais il y a une couverture qui est particulière. Est-ce que vous pourriez nous la décrire rapidement, cette couverture, et surtout la signification et peut-être la première réflexion qu'on peut avoir sur l'apparence de cette couverture ?
Mais lorsque l'éditeur m'a dit, ben voilà, je vais publier votre livre, je travaille avec un photographe à Nice, à vous de me donner des idées de couverture, j'ai immédiatement pensé à ça, à la nuque d'une femme, parce que souvent les femmes se mettent quelques notes de parfum derrière les oreilles ou un peu sur la nuque, et j'ai trouvé que ça résumait à la fois la fragilité des victimes, c'est là où va se nicher le déclencheur des crimes, c'est-à-dire voilà l'endroit qui est protégé, soit derrière les oreilles, soit dans la nuque, et qui était un symbole de fixation pour l'assassin, enfin pour le meurtrier, en me disant, ben voilà, c'est là où il devait flasher, entre guillemets, pour repérer ses victimes. Il avait dû sentir un peu les notes de tel parfum, et il s'était dit, ben voilà, ce sera ma prochaine victime, quoi.
Voilà. Alors, j'insiste à nouveau auprès des auditeurs, effectivement, d'être bien attentifs à cette photo sur la couverture, parce que ça, ils auront des flashbacks, si on peut dire, au fur et à mesure qu'ils liront le livre. Alors, Henri Migaud, le contexte de ce polar, on est où et qu'est-ce qu'on y fait ?
Alors, on est où ? Je n'ai pas voulu situer une ville précisément. J'ai pris en fait une superposition de villes. J'avais, là c'est un peu mon côté, un petit analyse sociologique, je m'étais aperçu que les villes, les ports m'intéressent d'une manière générale. J'aime les ports, moi-même je suis né à Marseille, donc j'ai vécu dans l'ambiance du port. J'aime voyager en cargo, donc je fais des voyages en cargo de temps en temps. Et donc les ports m'intéressent. Et ce qui m'avait intéressé, c'était la différence entre deux villes, par exemple Bordeaux et Nantes. Nantes a très vite reconnu son passé de colons, d'esclavagistes, de transport d'esclaves. Bordeaux l'a très 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 longtemps maintenu sous silence, quoi. Et y a aussi Barcelone, par exemple. Barcelone, c'est une ville qui tournait le dos à la mer jusqu'aux Jeux Olympiques, alors que la fortune de Barcelone venait de la mer. Donc toutes ces configurations-là m'ont inspiré, et je n'ai pas voulu situer dans telle ou telle ville précisément, mais je me suis servi un peu de ces éléments-là pour construire dans mon imaginaire une ville un peu fantôme, mais qui a des réalités historiques.
Et alors, vous employez je dirais, une méthode de description de cette ville qui est d'abord répétitive. On va y revenir. Et puis, effectivement, au fur et à mesure qu'on lit ce livre, moi, personnellement, j'ai vu des indices en disant, mais c'est quelle ville? Quand est-ce qu'il va nous donner le nom de cette ville? Alors, il y a un indice, page 163, qui ferait peut-être pencher pour Bayonne, mais après, en faisant des rapprochements sur des indications kilométriques à la page 218, on se dit, non, c'est trop loin. Après, vous évoquez Barcelone. Ensuite, on se dit que finalement, le kilométrage, ça serait peut-être pile poil Bordeaux. Mais finalement, ça ne colle pas, effectivement, si on regarde la situation géographique.
Bien joué, mon cher Watson. Belle enquête. Très belle enquête. Oui, non, je l'ai situé un petit peu, voilà, dans ma carte de France imaginaire. Voilà, aux confins de tout ça, effectivement, parce qu'il y a à un moment un aller-retour. Alors ça, j'ai un peu calculé l'aller-retour vers Barcelone, puisque il y a une enquête qui se déplace vers Barcelone, mais j'ai pas voulu dire soit Toulouse, soit Bordeaux, soit Nantes, soit Barcelone, soit Bayonne. J'avais envie de laisser un flou, et je trouve que c'est bien aussi de ne pas tout dire et de que le lecteur aussi fasse sa part du chemin et du voyage, quoi.
Alors, effectivement, il faut laisser le lecteur cheminer, chercher. Et puis, vu ce qui s'y passe, peut-être que c'est mieux de ne pas donner de nom non plus. Alors, cette ville, c'est le lieu symbolique. C'est la ville et sa sérénité de façade versus le vice et le mal qu'on peut y trouver. Et donc, vous employez, dans ce que je viens de dire, un processus de répétition et pour définir cette ville. Et la première fois que vous la présentez, donc c'est page 17. Si vous pouvez nous lire cette présentation de la ville, s'il vous plaît.
Sans problème. C'est une ville banalement pareille aux autres, qui a vu les usines fermer et prendre de nouveaux tics, informatique, bureautique, logistique, blouse blanche contre bleuette de chauffe, une ville où les zones commerciales fleurissent tout autour des ronds-points, vidant comme les saignées d'antan un centre qui s'assoupit, s'essouffle et agonise. Une ville ballottée au gré des élections, d'un projet à un autre, mais une ville qui entend préserver une certaine renommée, ripollinant le patrimoine, jalouse de ses établissements privés, où la bonne jeunesse peut éclore, fière de ses équipes sportives aussi, qui certes creusent les budgets, mais participent de la dynamique positive, chère aux élus, du moins du temps de l'ancienne mairie. Car aujourd'hui, avec ses zozos, les socialos, aux manettes, tout va à volo. Ça aussi, on l'entend dans les dîners en ville.
Voilà. Donc, on comprend mieux pourquoi, effectivement, il ne faut peut-être pas citer de ville. Et alors, donc, c'est comme une litanie dans cette présentation de la ville qui revient au fur et à mesure du déroulement de l'intrigue. Alors, c'est une ville banalement pareille aux autres. C'est une ville française des années 90 aux portes de l'océan. C'est une ville qui feint d'ignorer la mer. C'est une ville française à nouveau aux portes de l'océan. C'est une ville qui n'aime pas la mer et lui tourne le dos, qui feint d'ignorer le port et sa ligne d'horizon. Donc, le message passe bien. On voit que le dos est tourné à l'océan ou à la mer. Bien, Henri Migaud, je vous propose une première pause musicale. Thank you.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes toujours en compagnie de Henri Migaud pour son ouvrage Fragrance, paru en 2021 chez Z4 Éditions et probablement pas très loin d'une ville qui tourne le dos à l'océan ou à la mer. Henri Migaud, cette musique du film Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle, vous l'avez choisie pour quelle raison ?
Pour moi, et le film et la musique qui va avec, donc de Miles Davis, reflète vraiment, c'est la quintessence pour moi du roman noir, quoi, de l'ambiance des romans noirs. C'est-à-dire, oui, une ville sous la pluie, une ville où l'on marche, où on sent qu'il y a des ombres, voilà. Et puis, le film de Louis Malle, déjà, lui-même par le scénario et la manière de filmer est intéressante. Et l'histoire de l'enregistrement de Miles Davis est passionnante parce qu'il a fait ça d'une traite, quoi. On a été le chercher à l'aéroport. Louis Malle a été le chercher à l'aéroport. Il avait fait quelques concerts à Paris avant. Il a demandé à choisir ses musiciens, donc et avoir les rushs du film. Et ensuite, il s'est enfermé dans sa chambre d'hôtel. Et le lendemain matin, il est arrivé en studio avec tous les musiciens. Il leur a donné les partitions. Et ils ont tout enchaîné à la file. Ils appellent ça des racks. Il y en a une vingtaine, je crois, sur le disque. Et alors, curiosité des curiosités, c'est que ces morceaux-là ont été enregistrés une fois pour l'ascenseur pour l'échafaud. Et Miles Davis ne les a jamais, jamais, jamais joués en public. Aucun. Voilà. C'était uniquement pour le film. Et malgré les demandes, malgré tout ça. Et ça, c'est peut-être le thème d'un prochain bouquin, d'ailleurs.
Alors effectivement, en lisant ce livre, je précise aux auditeurs que on a forcément dans les oreilles ce type de fond, de fond sonore, de fond musical. Je parie avec n'importe quel auditeur que ça vient tout seul et que ça vient pour tout le monde. Alors, Henri Migaud, le personnage principal de ce roman, de ce polar, c'est un parfum. Alors, vous nous avez expliqué tout à l'heure dans quelle mesure, effectivement, c'était l'idée fondatrice de cet ouvrage. Dans l'idée de parfum, il y a une association à des notions comme le ailleurs, le désir et l'obsession. Donc, c'est autour de ces choses-là que vous aviez décidé de monter cette histoire ?
Oui, parce que le parfum, je reviens au parfum donc de Susskind, mais j'avais rencontré une fois, plusieurs fois, j'avais rencontré Anne d'abord, et aussi au cours d'un reportage, j'ai rencontré Jean-Paul Guerlain, qui fait les parfums Guerlain, et qui m'avait appelé, et les deux, et le nez et Guerlain, m'avaient un peu expliqué leur recherche, leur cheminement, notamment, par exemple, il y a un parfum qui est fait à partir des roses de mai, qui sont des roses qui éclosent au mois de mai, mais sur une très courte période, et il y a toute une production qui est faite pour ce parfumeur-là, et il m'avait un peu expliqué la démarche et tout ça, donc c'est quelque chose qui m'était resté dans la tête, et puis moi-même je m'étais aperçu qu'il y avait certains types de parfums chez les femmes qui me séduisaient, vraiment, et je dis, ah, ce parfum-là leur correspond bien, et ça résonne bien avec elles, avec leur personnalité. Et donc, ça a toujours été quelque chose qui m'avait intéressé. Et j'en fais, effectivement, après, on peut le prendre d'une manière positive, comme un esthète goûte quelque chose, et en manière, de façon négative, ben, ça devient une obsession, quoi. Voilà. Et lui est consommateur, alors que dans le livre de Grenouille, il est créateur. Là, il est consommateur et même pilleur.
Alors, c'est cette notion d'ambivalence que l'on retrouve lorsqu'on considère que le parfum a finalement peut-être aussi un pouvoir, puisque à un moment donné, vous dites des parfums qui peuvent susciter passion ou déraison.
Oui, ça peut être un déclencheur, oui, c'est ça. Ouais. Ça peut être, au sens positif, ça peut être quelque chose qui vous séduit, mais souvent dans les crimes, on se demande quel est l'élément déclencheur, que ce soit dans les crimes ou a fortiori, on le travaille beaucoup plus. J'ai eu la chance aussi, entre guillemets, de suivre des procès d'assises. C'est souvent la question qui titille les jurés, le président et la cour, c'est qu'est-ce qui a pu déclencher ça? Et donc là, j'avais un élément déclencheur qui était ce parfum. La personne qui passe dans la rue, vu de mon personnage, qui passe dans la rue, qui exhale ce parfum-là, peut être une cible potentielle. Voilà. Et ça, je m'étais dit, parce qu'il n'y a rien de plus... En plus, c'est invisible. C'est juste une traînée comme ça, et il suffit qu'elle croise au mauvais endroit, au mauvais moment, ce monsieur... Et là, elle peut être désignée comme une cible, quoi.
Dans ce roman, il y a deux personnages qui sont importants, qui s'appellent Boss et Bis. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire quel est le rôle de ces personnages et d'où vient le choix de leur prénom?
Alors, le premier, donc, est fils de très bonne famille. Et le second est le fils du chauffeur de cette famille. Ce fils du chauffeur, suite à un accident de la route et suite à un choc très violent, est devenu muet. Et donc, il est recueilli par la famille de cette bonne famille qu'il recueille parce que le père a été tué dans l'accident et donc il est recueilli dans la maison, il vit dans la maison et il a à peu près le même âge que le fils de la famille et se noue entre eux d'abord une amitié mais qui tourne très vite à un jeu un peu sadique même quand ils sont enfants. Pas tant de la part du fils du chauffeur, de l'orphelin, mais que du fils de la famille, qui lui-même, ne serait-ce que dans leur cabane, tout enfant, il s'amuse à capturer des oiseaux, à leur attacher les pattes et voir comment ça réagit. Donc déjà, il y a une petite perversion qui se noue là, et l'autre, qui n'a pas les mots pour ou s'opposer ou tout, subit un peu et suit le chemin, et puis... Le premier a quand même un ascendant sur lui et donc voilà, donc il y aura le bras armé d'un côté et la tête, même si elle est malfaisante, de l'autre.
Au-delà donc de ces deux personnages sur lesquels il ne faut pas revenir trop en profondeur, comme dans tout bon polar, il y a un enquêteur. Alors cet enquêteur, il s'appelle comment ?
Il s'appelle Marcus. Me demandez pas pourquoi. Ça m'est venu en même temps que l'idée du parfum. Je me suis dit, mais il va falloir mettre un flic dans cette affaire. Et c'est Marcus qui s'est imposé. J'en en ai aucune idée. Mais ça, je trouve que ça, c'est la magie de l'écriture qui arrive comme ça. Il y a des personnages qui surgissent, des prénoms qui surgissent. Je n'en ai aucune idée. Mais j'ai trouvé que ça lui allait bien.
Mais est-ce que le nom de famille a surgi en même temps ? Parce que c'est pas un nom commun non plus.
Non, c'est pas un nom commun, mais depuis que le livre est sorti, je me suis aperçu que ça soit au cinéma, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu un film avec un personnage qui s'appelait Marcus, et dans un article de presse, j'ai lu aussi quelqu'un qui se prénommait Marcus. Je vais te dire, peut-être que ai-je lancé la mode, allez savoir.
Voilà. Ou peut-être y a-t-il un profil de prénom par rapport
voilà,
aux enquêteurs.
Peut-être, oui.
Alors, Marcus, c'est l'enquêteur. Est-ce que c'est l'enquêteur, c'est l'archétype de l'enquêteur, c'est l'enquêteur type pour un polar? Comment il est? Quel est son caractère?
C'est un solitaire. D'abord, c'est un solitaire et un peu désabusé par la vie parce que il a tout donné, il donne tout à son métier et ça lui a coûté cher pour sa vie familiale. avec à la clé un divorce. Au gré des mutations, il y a la lassitude de la famille. Donc il se retrouve là, muté dans cette ville, qui tourne le dos à la mer. Il a son fils pendant les vacances, parce qu'il a un grand gamin qui est un jeune ado, qu'il peut avoir pendant les vacances. Le reste du temps, l'enfant est avec sa maman. Et voilà, il aime pas trop le milieu bourgeois de cette ville, qu'il trouve assez médisant, assez méfiant, replié sur lui-même et tout. Lui, c'est un peu un sauvage, avec plein d'humanité, mais il préfère les choses simples, les restos simples, les bistrots. C'est un passionné de tennis, par exemple, et il y a deux clubs. Alors le premier club, le club UP de la ville, se fait un grand honneur de recevoir monsieur le commissaire parmi ses membres, mais quand il juge l'ambiance, il préfère aller dans un autre club beaucoup plus simple, ça correspond plus à ses valeurs, quoi.
Donc, un commissaire un peu atypique et qui va donc mener l'enquête avec des références bien senties au monde de la police, au monde de la politique et au monde médiatique. Alors, pour le coup, on est vraiment dans un polar noir de chez noir, puisqu'il y a de la perversion, il y a du destin tragique, il y a de l'imbrication entre le politique et le médiatique, et il y a une description, une mise en évidence du mal, du vice. Alors, vous aviez... Est-ce qu'il y avait une certaine préméditation de votre part à essayer de dénoncer cet aspect noir de l'homme en général ou cet aspect un petit peu sociétal qui n'est pas forcément reluisant ?
Mais je trouve que le roman noir se prête à ça, quoi, à une belle, sinon une critique, du moins une radioscopie de la société. Vous prenez des auteurs américains, par exemple, c'est très typique. Je pense à Chandler, par exemple. Chandler, plus que l'intrigue elle-même, ce qui l'intéresse, c'est la description de la ville, la noirceur des personnages, l'atmosphère, la moiteur. Et je trouve que le roman noir ou le polar, c'est exactement ça. Ça vous permet d'un petit peu d'ausculter une ville, ses personnages, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui le subissent. Et puis, il y a la liberté de l'auteur qui fait que vous pouvez vous lâcher, vous pouvez... critiquer, analyser, derrière les hauts murs, ce qui se cache, il y a le vernis de la société, et puis il suffit qu'on gratte le vernis pour que ça s'écaille et qu'on voit des choses qui ne sont pas très reluisantes. Donc le polar est une bonne piste pour analyser un petit peu les travers de la société aussi, quoi. Sous couvert d'une enquête, bien sûr.
Sous couvert de l'enquête, effectivement. Henri Migaud, je vous propose la seconde pause musicale.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet
yet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Thou givest fever. When we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes toujours en compagnie de Henri Migaud pour son ouvrage Flagrance, paru en 2021 chez Z4 Éditions. Peggy Lee Fever, c'était logique.
Ben, elle chante Roméo et Juliette quand même, donc et c'est une histoire un peu tragique finalement. Donc oui, j'ai trouvé ça. Et puis je t'ai mis aussi dans ce livre parce que à certains moments, il faut quand même qu'il y ait des instants un peu joyeux, un peu gais, qui pulsent, qui rythment, qui donnent du sel à la vie. Et Marcus n'est pas qu'un personnage nostalgique, ronchon, grommelant et tout. Il a aussi des côtés de joie lorsqu'il déjeune avec ses collègues, lorsqu'il rencontre une jeune femme et dont il tombe amoureux. Enfin, il y a ces instants-là. Et ce genre de musique, il se la met dans la voiture quand il a une journée harassante. Il se la met, ça lui donne un peu de peps. Quand il rentre chez lui, il s'écoute ça avec un verre de vodka et finalement, la vie n'est pas si noire, quoi. Ça lui balaye un peu tous les nuages qui l'entourent.
Alors, Marcus a aussi le sens de la formule. Et il nous donne des explications sur son métier. Alors, une première explication qui est, je dirais, une formule savoureuse. Lee, commissaire, c'est metteur en scène, une plaque et une arme en plus. Donc, c'est des formules qui m'ont beaucoup rappelé des formules un peu à la Audiard ou à la Berrurier, un petit peu, hein, dans son genre. Et Marcus nous donne dans ce roman une définition de l'enquête que j'aimerais bien que vous puissiez nous la lire, qui est donc page 43.
Avec grand plaisir. Une enquête qui démarre, c'est une première de théâtre, mais sans répétition. Du sans-filet. Vous avez la scène du crime, mais vous ignorez l'intrigue. L'important, la distribution des rôles. Ne pas se tromper. Faut connaître sa troupe. Les talents, les faiblesses de chacun, faire avec les nouveaux, gérer les anciens, mais aussi les rancunes et les frustrations, parce que vous êtes plus jeune et que le hasard, le boulot ou la chance vous ont mené ici, au centre. Commissaire, c'est metteur en scène. Une plaque et une arme en plus.
Voilà. Tout est dit dans ce métier.
C'est un travail d'équipe et avec un chef d'orchestre. Voilà. Et Marcus est le chef d'orchestre.
Et on sent bien qu'il gère bien son équipe, qu'il est apprécié et qu'il est assez exigeant par rapport à lui-même, mais aussi par rapport à son équipe, mais que c'est quelque chose qui tourne finalement.
Ah oui, c'est une affaire qui tourne. Et il donne sa chance aux jeunes. Il a su détecter dans chacun, parce qu'il est arrivé dans ce commissariat il n'y a pas si longtemps. Et donc il a au-dessus de lui un commissaire divisionnaire, mais qui est plus dans le rôle du gestionnaire. Et lui est plutôt l'homme de terrain et le meneur de l'équipe, le chef d'orchestre. Et donc, il a su repérer chez les uns et chez les autres leurs failles ou leurs facilités. Et il a su en jouer pour les mettre chacun au meilleur endroit pour être le plus efficace possible. Et en évitant les frustrations, les rancœurs, les choses comme ça, pour tirer le meilleur de son équipe. C'est le rôle d'un chef d'orchestre, quoi.
Et en parallèle, il a su se construire un réseau avec des structures extérieures, notamment avec la presse et certains journalistes, malgré le fait qu'il y ait des antagonismes entre l'institution policière et le journal local.
Alors oui, mais il y a quand même des liens qui se tissent quand vous êtes accrédité aux informations générales, aux faits divers, et que vous êtes en lien régulier avec les inspecteurs, les commissaires, ben, y a des liens d'amitié qui se tissent, il y a des liens de confiance aussi, que vous pouvez, de la part d'un enquêteur, vous pouvez dire, bon voilà, on en est là, mais là pour l'instant c'est entre guillemets off the record, donc c'est, on ne le diffuse pas. Si la confiance est mutuelle, il n'y a pas de souci, ça permet aux journalistes de ne pas être pris au dépourvu lorsqu'il y a un dénouement, des choses comme ça. Et puis il y a aussi les conflits au sein d'un journal, c'est-à-dire qu'il y a parfois, vous avez un journaliste qui fait bien son travail, et puis débarque un rédacteur en chef qui est là pour des motifs, parce que la direction l'a mis pour des raisons politiques, alors qu'il lui-même ne sait pas trop comment il est arrivé là. Et donc effectivement, là, il y a conflit au sein de la rédaction, et là aussi c'est un petit théâtre d'ombre avec ses tensions, ses moqueries, ses petites vacheries, là aussi c'est une micro-société, une rédaction, donc c'est intéressant à observer.
Dans ce polar noir, il y a aussi une histoire d'amour, puisqu'il y a Florence. Mmh. Alors Florence, c'est une amie, on pourrait dire, de longue date, et dans le roman, on sent que la relation est en train d'évoluer.
Oui, parce qu'ils se sont croisés, elle était chroniqueuse judiciaire au départ, et lui était venu témoigner au cours de ce procès. Ils se sont rencontrés, et puis, comme souvent, il y a des amitiés qui se nouent. Et si la journaliste est jolie, aimable, intelligente, Marcus n'est pas resté insensible. Et puis, au fil du temps, il s'appelle, elle est journaliste à Paris. Et donc, ils ont une aventure, et lui est franchement amoureux, et elle le dit moins, mais est très, très attachée quand même à Marcus. Mais son travail faisant qu'elle est à 1000 km ou 800 km de Marcus, voilà, c'est par intermittence. Et puis, à l'occasion d'un reportage, elle l'appelle. Il y a toujours une dose d'humour dans leur relation, en lui disant, ben voilà, je débarque chez toi, est-ce que on pourrait se voir? Et lui, bien sûr, fin l'indifférence, mais pour rire. Et avant qu'elle n'arrive, du coup, mûrit une idée en lui, c'est qu'il se dit quand même, on s'entend bien, cette fille, j'en suis vraiment amoureux. Et pourquoi est-ce qu'on n'irait pas plus loin et vivre ensemble, d'autant qu'elle peut avoir une certaine liberté dans son travail, elle est grand reporter, elle peut très bien ne pas être tous les jours à la rédaction, voilà. Et donc il y a cette histoire qui est en train de se nouer, quoi.
Alors, on voit dans le roman un peu plus loin la place spécifique que va prendre Florence dans l'histoire. Alors, au-delà du polar, ou ce qui en fait la matière aussi, c'est donc il y a des aspects psychologiques qui sont développés, et sur l'amour maternel, la trahison, la revanche d'une mère un peu épouse soumise, l'emprise sur autrui, la perversité et le cynisme. Et là, au passage, je voudrais insister sur votre sens de la formule. Tout au long de ce roman noir, et un bon exemple, c'est votre définition du cynisme, enfin la définition que vous faites donner au cynisme. Vous dites, le cynisme est un gaz puissant, il anesthésie les scrupules à merveille, scrupules ridicules, mais le cynisme est un gaz volatile, il s'évapore pour un rien, un sourire peut-être, un mystère parfois. C'est bien l'ambiance du roman.
Oui, il faut pas tout dire, quoi. On peut suggérer, voilà. Ouais. Et c'est là l'intrigue, c'est comme l'érotisme, quoi. On ne peut pas tout dire, ça devient très vite de la pornographie, mais juste une épaule qui se découvre est beaucoup plus évocateur qu'autre chose. Donc voilà, le cynisme et l'humour, c'est toujours des questions de nuances, quoi.
Voilà, tout à fait. Alors, au-delà de ça, ce que je voulais revenir un petit peu sur la structure de ce roman. Il y a finalement deux histoires en parallèle. Hein, donc, et ces deux histoires en parallèle... sont comptés sur un espace-temps qui est d'une semaine. Mmh. Voilà. Donc, c'est une bonne manière pour essayer de perdre un peu le lecteur, mais finalement, en cours de lecture, ça permet aussi de se raccrocher un petit peu quand on a compris la manip. Alors, c'était votre idée dès le début de cette construction ?
Oui, c'est un peu comme dans un atelier d'écriture, vous avez des contraintes. Et donc, je m'étais fixé une contrainte, c'est que l'enquête, le fil de l'enquête ne dépasse pas une semaine. Et parallèlement, j'avais dans l'idée quand même, pour expliquer la genèse des auteurs ou de l'auteur des meurtres, de les faire démarrer dès leur enfance pour qu'on explique un petit peu le processus. Donc, et là, ça a été un sacré petit travail de construction parce que je m'étais fait deux tableaux. Il fallait que ça colle par rapport aux années, par rapport aux âges, par rapport aux différents épisodes de la vie des protagonistes. Et donc un tableau sur X années et un tableau sur une semaine. Et il fallait qu'absolument les choses s'emboîtent un peu comme des Lego et que la construction soit cohérente et que ça tienne. Et plusieurs fois, je me suis surpris, j'avais écrit quelque chose. Et à la relecture, je me suis dit, mais non, c'est pas possible, ça colle pas, là, il y a une erreur. Donc, revenir en arrière, fallait...